France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, que reste-t-il de mai 68? Question posée à l'occasion du 50e anniversaire de ce qui reste à ce jour la plus grande grève de l'histoire. Qu'en reste-t-il au niveau social? Cela a-t-il changé les rapports dans l'entreprise? Et si oui, cela a-t-il été durable? Quel a été l'impact de mai 68 du point de vue politique, si tant est qu'il y ait eu un impact? Et pourquoi certains continuent-ils de voir dans mai 68 un héritage maudit? Alors, vous qui avez vécu cette période, dites-nous ce que vous en avez retenu et si cela a changé quelque chose pour vous dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie quotidienne, familiale. Avec nous pour en parler, le sociologue Alain Touraine, spécialiste des mouvements sociaux, du monde ouvrier et de tellement d'autres choses. Bonsoir Alain Touraine.
Bonsoir.
Auteur de multiples essais, dont Le mouvement de mai ou le communisme utopique. Alain Touraine, qui était professeur à Nanterre en 1968. Avec nous également Alain Krivine, leader de la jeunesse communiste révolutionnaire en 68, organisation dissoute par les autorités à l'époque.
Bonsoir.
Bonsoir, rebonsoir Alain Krivine et l'historien Boris Gobie qui publie Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu aux éditions de l'Atelier. Bonsoir Boris Gobie et puis donc vous tous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Un premier appel qui nous vient de Dreux, celui de Guy. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir et merci de me laisser la parole. Oui, bah c'était pour... je me présente, je suis ouvrier boulanger à la retraite maintenant. J'ai commencé en 65 en apprentissage, hein, 12 heures par nuit à travailler et tout. Et arrivé en 68, j'ai une conscience politique et syndicale qui s'est un peu éveillée. Bah, déjà par mon patron qui dit critiquer les étudiants en grève et tout, alors que j'avais... Dans mon entourage, j'ai des copains qui étaient lycéens, qui continuaient leurs études et qui me disaient que j'étais exploité et tout. Donc avec eux, j'ai été à Paris, à Vincennes, dans des assemblées. C'est là que j'ai rencontré des étudiants, des mouvements politiques, surtout maoïstes qu'il y avait à l'époque. Bon, je suivais, je comprenais pas tout, mais c'était l'exploitation. Et pour moi, mai 68, c'est surtout ça, c'est une élévation de ma formation un peu syndicale et politique par la suite, qui m'a beaucoup servi, puisque après j'ai travaillé en boulangerie à Paris, et puis après je suis revenu en province travailler dans un hypermarché, j'ai été délégué syndical, et délégué du personnel ma vie, avec mes amis, bon, beaucoup de femmes d'ailleurs.
Ça a été un moment important pour vous, Guy, si je comprends bien.
Oui, pour moi, en 68, oui, c'était important. Mais c'était pas une revanche par rapport à la famille, puisque malheureusement, j'avais perdu mon père à l'âge de 4 ans, et mes 5 frères et sœurs, on a été élevés par ma mère, et on était très, très libres. Hein. Et en 68, je me rappelle, après, dans la maison, on venait avec nos copines et tout, mon frère, ma sœur, il n'y avait pas de problème, hein. Mais c'était plutôt une conscience politique et syndicale d'exploitation, quoi, qui malheureusement toute ma vie j'ai combattu pour ça. Bon, j'ai peut-être été, je finis ma retraite au minimum, hein, en tant qu'ouvrier boulanger, mais j'étais des syndicales. La seule répression que j'ai eue, en fait, c'est que j'ai jamais eu trop d'augmentation de salaire et trop de d'augmentation dans la hiérarchie, surtout dans le commerce. Mais bon,
mais mai 68,
dans la glace tout le temps.
Reste un moment important. Un grand merci, Guy,
merci.
De nous
merci
avoir appelé.
Puis, bonjour à Alain Krivine, que j'ai fait une partie aussi de ma politique auprès de la SCR. Maintenant, je suis un peu en stand-by, mais je continue à manifester comme hier pour les retraites.
Ah bah voilà.
Voilà. Et j'écoute France Inter.
Merci. Merci beaucoup, Guy. Alain Krivine, faut le saluer, le camarade.
Non, mais je le salue, j'écoute aussi France Inter et j'étais aussi à la manif hier.
Voilà, tout est parfait. Alain Touraine, merci d'être avec nous ce soir.
Je vous en prie.
Vous étiez professeur de sociologie en 68 à Nanterre. Vous aviez même un étudiant qui s'appelle toujours Daniel Cohn-Bendit, étudiant en sociaux.
Que j'ai encore vu avant-hier.
Voilà. Le témoignage de Guy, qu'est-ce que vous en dites ?
J'en dis pas grand-chose parce que ça se suffit en lui-même. Je veux dire, c'est vrai que pour énormément de gens, il faut pas oublier, ça a été dit d'ailleurs au début, c'est la plus grande grève, etc. Il est indiscutable qu'il y a une participation ouvrière classique, je dirais, ça pose pas de problème. Je veux dire, ni pour les étudiants, ni c'est pas là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en même temps que tout ça est absolument vrai, que tout ça, c'est, ça continue, c'est la grande route de l'histoire, si vous voulez, mais en même temps, eh bien, écoutez, mai 68, c'est aussi les routes qui se séparent. C'est-à-dire que, pas du tout entre ouvriers et étudiants, c'est pas de ça qu'il est question. Mais je dirais, c'est quand même le moment où il y a une sensibilité, un type de demande qui viennent des étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont une vingtaine d'années, qui sont plutôt de catégorie moyenne, etc. Et non pas du monde ouvrier, avec lequel il y a pas mal de va-et-vient, de communication, mais avec ce qu'on appelle tout simplement le PC. C'est-à-dire que la direction politique du mouvement ouvrier français, elle est complètement ailleurs. Et vous savez bien que ça a été difficile pour de faire accepter à Ségui que Cohn-Bendit soit en tête de la manifestation, par exemple. Et donc, il y a eu, je me rappelle moi un petit détail, que probablement pas grand monde se rappelle, mais un chanteur officiel du Parti communiste, monsieur Jean Ferrat, si je me souviens bien, a chanté une chanson contre les étudiants qui étaient des agents de la police.
En ça qu'il y a une séparation d'un...
Oui, je veux dire, les deux choses ne sont pas contradictoires. Je veux dire, il n'y a pas de grande distance, et puis les étudiants, ils sont comme tout le monde. Pour un étudiant français ou européen, disons, ce qui bouge, ce qui revendique, ce qui fait changer le monde, c'est le monde ouvrier. À cette époque-là, moi aussi, je pense exactement la même chose.
Alain Crivine, vous êtes d'accord?
C'est-à-dire... J'ajouterai quand même plusieurs choses, c'est que d'une part, il y avait un mouvement étudiant qui est passé de 300 000 à 500 000 en 68, aujourd'hui ils sont 2 millions. À l'époque, c'était effectivement des enfants de la grande bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie, mais qui travaillaient pas, d'où la liaison avec le mouvement ouvrier était pas facile. Aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants est obligé de travailler pour payer les études ou payer le logement. Donc on a une situation complètement différente. On avait un prolétariat qui aujourd'hui est beaucoup plus nombreux qu'à l'époque, mais beaucoup plus divisé qu'à l'époque. Il n'y a plus de grandes usines, il n'y a plus, en France, hein, j'entends, il n'y a plus de grandes agglomérations ouvrières. Je me rappelle qu'on disait quand Renault éternue la France s'enrhume, mais il y avait 30 000 ouvriers à Renault-Billancourt. Aujourd'hui, Renault-Billancourt n'existe plus. Donc tout ça a beaucoup changé, même si l'idée... Et ça a été dit tout à l'heure par votre correspondant, l'idée de, comment dirais-je, quand il y a un mouvement social de ce type, les gens sont quotidiennement, comme disait Trotsky, méconnaissables. Quotidiennement méconnaissables. Qu'ils soient ouvriers, étudiants, enseignants, chômeurs. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant, disons, une douzaine de jours, un climat extraordinaire de libération, de liberté... dans Paris et en province, ça c'est vrai.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que justement Véronique qui nous appelle du Gers, je crois, va aller dans votre sens Alain Crivine. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir, bien tout à fait.
Bienvenue.
Bonsoir à tous. C'est vrai qu'à l'époque j'étais bien jeune, je n'avais que 13 ans, mais en fait il y a eu quelque chose qui s'est passé, enfin une espèce de prise de conscience, comme si quelque chose volait en éclats. Lorsque je suis arrivée un matin au collège et que il y avait une, enfin c'était un collège privé religieux, il y avait une des bonnes sœurs donc qui était là et qui était en train de, enfin devant le mur en train de d'effacer fébrilement un grand tag, un énorme tag où était inscrit révoltez-vous pucelle. Alors c'était comme si c'était un grand vent de liberté tout d'un coup qui arrivait sur nous. Enfin moi j'ai ressenti une jubilation à ce moment-là, comme si aussi tout ce qui était de la bien-pensance, de la religion, ça pouvait basculer à un moment donné. Là, on n'était plus tiré à quatre épingles, le petit chino bien fait. Il y avait un vent de liberté qui s'imposait aussitôt, quoi. Enfin, dans cet esprit, et comme si aussi on sortait des rails d'une société de consommation dans laquelle on était formaté, on devait être formaté, et finalement, là, on la remettait en question.
Merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. Oui. Merci à vous. Alain Touraine, ça a été une révolution culturelle, mai 68?
Oui, Absolument, et même en un sens un peu plus fort que ça. Je veux dire que ce qui, moi, m'a impressionné, c'est que les mouvements, parce que avant la France, en même temps que la France, il y a l'Italie, l'Allemagne, etc., mais 4 ans avant, il y a les États-Unis. Berkeley, l'affaire que je connais bien. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinairement nouveau. Premièrement, que ce soit les étudiants qui sont les éléments porteurs, c'était pas du tout. Maintenant, ça se voit partout dans le monde arabe, au Chili, n'importe où, mais c'était pas le cas. Et deuxièmement, que les problèmes de la culture, de la personnalité, de l'individu, de la vie, sont plus importants que les problèmes de la société et de l'économie. Ça, c'est quand même. Ça n'empêche pas tout ce qui s'est dit et qui est justement, je dirais, cette atmosphère de libération. C'est pas une révolution, 68. C'est une libération, ce qui est tout à fait autre chose. Mais cette atmosphère de libération, c'est ça qui a permis de faire le passage entre un monde qui était un monde essentiellement ouvrier et dans sa pensée de pendant 200 ans. Et maintenant, le monde d'aujourd'hui, où ce sont les problèmes internationaux et culturels, car on n'a pas encore eu l'occasion de parler de ça, mais n'oubliez pas qu'en 68, une chose tout à fait nouvelle pour les Français, c'est qu'on parle beaucoup d'international. On parle d'Iran, à Berlin surtout d'ailleurs, on parle beaucoup du Vietnam partout, etc. Enfin, il y a, si vous voulez, les problèmes nationaux, religieux, culturels, sexuels, enfin tout ce qui est du culturel, si vous voulez, occupe le devant de la scène, alors qu'avant, c'est la répartition des richesses qui est en cause. C'est quand même un changement fondamental.
Alain Krivine.
Oui, enfin, on peut discuter de ça, parce que je pense que moi, 68, c'est d'abord et avant tout une explosion sociale et une grève générale en France, hein, j'entends, avec 10 millions de grévistes, des drapeaux rouges sur les usines, des faiblesses énormes, il n'y avait pas d'auto-organisation, pas de contrôle ouvrier, le poids du PC était encore très fort. Mais je me souviens, y compris qu'il y avait une vacance du pouvoir terrible, il n'y avait pas de gouvernement, pas de parlement, le PC voulait pas du pouvoir, la CGT non plus, et les gens ne voulaient pas de Mitterrand et de Mendès France quand ils se sont présentés au stade Charletti. Donc il y avait une, pour moi c'est pas une révolution, c'est une explosion révolutionnaire où on savait très bien où ça n'allait pas. C'était pas, en ce sens, c'était pas une révolution, il n'y avait pas les éléments d'une révolution, mais on savait pas jusqu'où ça allait. Et on poussait au maximum. Bien, donc moi je retiens surtout de ça. Bon, il y a eu ce mouvement jeune à l'étranger dont vous avez parlé, en Amérique latine, avec une répression très violente, notamment au Mexique, avec des morts.
Mais c'est autre chose, le Mexique.
Non, mais d'accord, mais il y a eu quand même, bon, il y a eu les pays de l'Est, etc.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je veux dire, donc, c'est à la fois une révolte jeune. Moi, je crois que, pour conclure, mai 68 dans le monde, c'est une transition. C'est-à-dire, il y a à la fois un mouvement jeune qui apparaît, une politisation sur des problèmes universitaires, comme par exemple à Nanterre, la mixité des dortoirs, plus le Vietnam. Ça, c'est un élément de politisation et qui fait que les gens sont mis à crier à plusieurs milliers, nous sommes tous des juifs allemands, quand Cohn-Bendit a été viré. Mais je sais que 15 jours avant, on aurait dit ça à la Sorbonne, on se faisait engueuler, les gens vont regarder comme des zombies. Donc ça prouve effectivement que les gens deviennent quotidiennement méconnaissables quand il y a un mouvement social énorme. Maintenant, sur le plan culturel, sur le plan sexuel et tout, je crois que mai 68 est une énorme ouverture, mais tout s'est déroulé après 68 et pas en 68.
Boris Gobi, petite parenthèse, parce qu'il y en a un qui met peut-être l'aspect culturel des choses au-dessus, l'autre l'aspect social. Faut pas opposer les deux ?
Non, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que la critique de l'exploitation et la critique de l'aliénation allaient de pair. Les demandes d'égalité, la lutte contre les inégalités économiques, ça allait de pair avec des demandes d'émancipation. L'émancipation individuelle allait de pair avec une notion d'émancipation collective. Et par conséquent, je pense que la frontière n'est pas si tranché que cela, et que on ne doit pas forcément opposer ces deux dimensions de mai 68. S'il n'y avait eu que la révolution culturelle, comme ça a été beaucoup dit ensuite, ça n'aurait pas à ce point-là inquiété le pouvoir. Faut pas se raconter l'histoire. Certes, il y avait une société engoncée dans des normes, etc., mais un pouvoir ne se serait pas senti à ce point déstabilisé s'il n'avait été question que de révolution culturelle. Je veux dire au sens non maoïste du terme, hein, au sens voilà, des mœurs, etc. Mais de la même manière, s'il n'y avait eu que le mouvement social sans cette dimension culturelle, probablement que on aurait eu l'impression que c'était un mouvement beaucoup plus puissant, certes, mais tout de même dans la tradition du mouvement ouvrier antérieur, alors qu'il y a des innovations considérables dans le mouvement social en 68.
Voilà, et des innovations culturelles, parce que ça, c'est Dominique sur les réseaux sociaux qui nous dit, en septembre 68, nous les filles, on a pu enfin mettre un pantalon à l'école. Ce n'est pas rien. Et Suzanne, qui est en ligne, elle aussi de Paris, va peut-être nous parler de cet aspect des choses. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir. Alors oui, moi je travaillais à la caisse d'allocation familiale. C'est là que j'ai rencontré, enfin elle travaillait déjà, mais on a eu une grande amitié avec Dominique, une amie à moi. On se fréquente toujours. Et bon, alors au point de vue avancée sociale, on a eu droit, les femmes de ménage ont eu le doublement de leur salaire, on a eu droit à 12 jours pour les enfants malades alors qu'on avait que droit à 6 jours, les hommes qui travaillaient ont eu droit également à cette ouverture-là. On a eu aussi des avancées. On a réclamé l'abrogation des ordonnances de la Sécu qui ont été abrogées. On a eu également le paiement de nos jours de grève. Et ce qu'on a eu aussi, c'est qu'avec le comité d'entreprise, on a pu découvrir la neige et on a pu aller on a découvert la neige, on est au sport d'hiver, on avait un chalet à Saint-Orlin-d'Arves qu'on a eu jusqu'en 1980 et c'est la CFDT qui a tout cassé. Mais bon, mai 68 pour nous a été aussi pareil. On n'avait pas le droit de mettre un pantalon. On a pu mettre des pantalons pour travailler. On n'a plus de blouse blanche. On a fait avancer les choses. Et puis bon, ben mai 68 pour moi c'est quelque chose de bien. Ça m'a permis de me révéler. J'ai vu que j'étais plus que une femme qui travaillait. Bon ben, si j'ai pu aussi militer, c'est parce que j'avais un mari qui m'a laissé militer et qui s'occupait beaucoup des enfants et du ménage. Donc moi, après on
bilan positif, hein. Bilan positif, Suzanne.
Bilan positif, tout à fait, oui. Et puis bon, il y a eu le MLF qui nous a aussi aidé à avoir la pilule, enfin on a fait des manifestations, et aussi la mutuelle nous a remboursé l'IVG pour les personnes qui faisaient des IVG. Ça a été aussi quelque chose d'important pour les femmes.
Merci. Bon, oui, Suzanne, voilà. Je vais vous couper parce que l'émission est un petit peu plus courte ce soir, faut qu'on accélère. Oui. Mais en tout cas, un très grand merci pour ce témoignage. Alain Touraine, quand on voit tout ce qu'énumère Suzanne,
quand même,
68,
y a pas
c'est pas rien. Hein.
Non, mais c'est pas le front bleu. Je veux dire, c'est pas 36. 36, c'est un événement majeur dans l'histoire sociale ouvrière. Bon, et tandis que là, quand vous faites ce bilan, ça fait des broutilles, et vous savez que la chose qui nous apparaît si importante aujourd'hui, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, personne ne l'a demandé, la CGT l'a pas demandé, le patron n'a pas réagi, c'est la CFDT, qui d'ailleurs s'y intéressait pas tellement à cette époque-là, c'est Maire après qui est venu pour introduire ça. Non, écoutez, aujourd'hui, quand vous dites mai 68, 50 ans après, à quoi les gens pensent? Les gens pensent, excusez-moi de dire ça comme ça, à coup de bénite, je veux dire, il y a quand même un changement d'atmosphère, etc. Ça veut pas dire que les choses ouvrières ne sont pas importantes. Ça veut dire qu'on, ce n'est pas quelque chose, c'est pas dans ces termes-là que la France et le monde vivent aujourd'hui.
Alain Crivine, Pinotte, oui, enfin, sur le plan social, par rapport à 36,
non, ça,
mai 68?
Je crois que sur le plan social, et votre correspondante a raison, il y a eu des avancées énormes. Sur le plan culturel aussi, j'ai dit le mouvement des femmes, le mouvement des immigrés, tout ça est pas né en 68, il est né après, mais il est né grâce 68, à 68.
Oui, les femmes. Bien,
absolument. Mais j'ajoute que sur le plan social, tout ce qui a été dit a été acquis en 68, même s'il a fallu des bagarres. Je me rappelle, aux usines Renault, Georges Séguy a pas été accepté la première fois parce que les accords de Grenelle allaient pas assez loin, mais il y a eu ensuite plein de conquêtes comme la reconnaissance de la section syndicale, etc., qui fait que, moi je crois, au moment où, une semaine ou 15 jours avant, dans Le Monde, Vincent Pontet titrait « La France s'ennuie », je crois que c'est ça qu'il faut garder de 68, et pour moi, il s'agit pas de commémorer 68, parce que ça, les enterrements, j'en ai fait assez, et je veux pas enterrer 68.
Parce que commémoration piège à con, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. Mais de même, à l'époque, élection, c'était un piège à con, parce que c'était une façon d'enterrer un mouvement extra-parlementaire dans des voies parlementaires. Mais ce que je pense, et ça, c'est le grand succès de ce 68, et qu'on peut recommencer, c'est qu'il y a des mouvements sociaux qui pètent comme ça quand les gens en ont ras-le-bol, ce qui est le cas aujourd'hui. Le problème, c'est d'arriver à coordonner tout ça et pas avoir plusieurs manifestations comme hier le 22 mars, où il y a du monde dans la rue, mais où c'est désordonné et pas coordonné. Donc il faut arriver à un mouvement d'ensemble coordonné qui peut faire reculer le pouvoir. Mais je crois que quand on cite Cohn-Bendit pour 68, les gens ne sont pas Macron aujourd'hui. Ils l'ont peut-être été, mais ils ne le sont plus. Cohn-Bendit, il est Macron, Romain Goupil est Macron. Ils sont tous Macron maintenant, bah pas moi. Et je suis fier de ne pas l'être.
On repart au Standard de France Inter. Jean-Luc est en ligne de Toulouse. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir, oui. Bon, je pense que j'ai l'âge où j'ai profité des effets de 68, où 68 a émancipé l'individu. Et malheureusement, après, au lieu de continuer dans cette émancipation de l'individu, on a développé l'individualisme. Et c'est ça qui me fait... Je pense plus à ça que, bon, sur le plan social, il s'est passé bien sûr plein de bonnes choses, mais c'est surtout pour moi la libération de l'individu, de la femme, etc. Et malheureusement, c'est de l'individualisme qui en est ressorti aujourd'hui, et nous avons les exemples. Enfin, je pense que de 68, il y a eu des gens merveilleux qui ont partagé autour d'eux ces idées-là et qui ont fait quelque chose de bien, que j'en ai connu et qui était vraiment sensationnel. Et puis d'autre côté, il y a eu des gens pas bien. On peut parler, je sais pas, on peut parler de gens connus comme Sarkozy, tout ça, qui est un pur produit de 68, bien sûr. Et c'est un pur produit, la manière dont il s'est comporté. C'est vraiment ça, l'individualisme et l'incompréhension totale de ce que pouvait être un événement comme ça, de la liberté.
Merci Jean-Luc. Je vous coupe, voilà, parce qu'il est déjà 19h55, il nous reste 3 minutes et on va dire un petit mot. Sarkozy, on sait qu'il n'aime pas beaucoup mai 68, mais j'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi est-ce qu'en France on s'écharpe encore sur mai 68 50 ans après, parce que vous l'avez dit tout à l'heure Alain Touraine, c'est pas un événement qui est franco-français, enfin c'est quelque chose qui a existé à l'étranger aussi. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là, nous? Et vous avez chacun 50 secondes, une minute, et puis après c'est terminé. Alain Touraine.
Non, parce que je pense qu'ici aussi on sous-estime la signification. Pour moi, évidemment, c'est un peu grossier, trop rapide de dire ça, mais enfin, quand même, on bascule, si vous voulez, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on parle droit et État, à partir du XIXe et du XXe, on parle travail et monde ouvrier, c'est quand même une transformation fondamentale, et maintenant, au XXIe siècle, on parle problème du monde, problème de l'individu, individu pas au sens de l'individualisme étroit, et on parle culture et même religion et même nationalité, etc. Quand même, le monde a changé fondamentalement, et c'est pour nous le souvenir qu'on a eu, c'est que même le climat, la joie, etc., tout ça veut dire on est changé d'époque brutalement. On s'est endormi au 19e siècle, on s'est réveillé au 21e siècle.
Alain Crivine, pourquoi est-ce qu'on s'écharpe encore aujourd'hui sur mai 68?
Non, d'abord, je veux préciser une chose. Mai 68 est fêté dans tous les pays du monde. Plus ou moins, mais dans tous les pays du monde. Hein.
Mais pas avec les polémiques comme celles qu'on a ici, avec Valeurs Actuelles qui tirent sur les héritages maudits, là, aujourd'hui.
Nous, c'est normal, il y a des tas de gens qui attaquent 68, parce que ce qu'il faut retenir de 68, c'est un mouvement extraordinaire qui peut se reproduire, et un mouvement social extraordinaire qui peut se reproduire. C'est pour ça que tout le monde a repéré que le 22 mars, par exemple. Hier, c'était important.
Vous avez de la suite dans les idées. Mais oui, mais j'ai de toujours la suite révolutionnaire. Dans les
idées, parce que je reste révolutionnaire et je pense que c'est ce que 68 nous a appris à nous et dans le monde, c'est qu'on peut se révolter et qu'on doit se révolter. Mais c'était pas une révolution aboutie. Il faut aboutir à un mai 68 qui réussisse.
Boris Gobille.
Non, mais je crois que ça clive toujours parce que tout simplement tous ceux qui ont parti liés à la reproduction de la domination et des inégalités ont eu très peur. Et ils ont eu très peur. Et donc, c'est organisé une réaction à la fois intellectuelle, sociale et économique qui n'a cessé de d'avoir pignon sur rue d'alimenter cette haine de 68. Mais cette haine, elle est articulée à une peur.
Boris Gobille, on nous a dit qu'on allait ouvrir les archives de mai 68.
C'est alors, fait.
Vous qui êtes historien, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau qu'on ne sache pas?
Pour l'instant, c'est ouvert très partiellement.
Alain Touraine, oui, dites-nous.
Non, parce que j'ai vu Gessmar, qui est allé avant-hier, qui est allé voir des dossiers qu'il voulait. Ça commence seulement à s'ouvrir. Mais on doit trouver beaucoup de choses.
Et mais là, vous parlez des archives de la police?
J'ignore.
Les archives,
ce qui
50
non,
ans.
Non, mais les historiens travaillent sur les archives de 68 depuis bien longtemps quand même, hein, donc elles sont ouvertes. Mais il y a toujours des fonds à explorer, il y a toujours des conquêtes historiographiques à faire. Je pense en particulier aux archives du pouvoir. Il va y avoir une exposition aux archives nationales qui a été montée par Emmanuel Géry et Philippe Artière à partir là de fin avril, début mai. Sur les 68 archives du pouvoir. Ça va être 68 vues du point de vue du pouvoir, mais au moment même des événements. Hein. Et donc ça va être très intéressant aussi de voir comment le pouvoir a vécu 68 de l'intérieur.
Voilà, donc il y a encore du travail. Merci beaucoup Boris Gobille, merci beaucoup Alain Krivine. On a compris que pour vous, l'histoire n'était pas terminée. Merci beaucoup à Alain Touraine. Merci à vous tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et tout particulièrement à Irène Menahem pour son aide si précieuse. Merci aussi à Jimmy Bourquin, à la réalisation, Juliette Gou à la technique, Stéphane Boja, Henri Bérec et Juliette Delperroux. Merci aussi aux standardistes de l'émission. N'oubliez pas, juste après les infos de 20h, le grand soir avec Laure Adler et Charline Vanhoenacker jusqu'à 22h.